Le ministre de la Santé, Olivier Véran, et le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, ont expliqué ce mercredi travailler sur une application mobile de traçage social pour suivre la propagation du virus et ralentir sa propagation. Un projet qui est loin d'être simple et qui pose des questions complexes, tant du point de vue technique que du point de vue juridique et éthique. Bonjour Olivier Tesquet. Bonjour Olivier Tesquet.
Bonjour, vous m'entendez?
Oui, je vous entends très bien.
C'est bon.
Vous êtes journaliste spécialisé dans les questions numériques à Télérama. Vous avez notamment publié À la trace, enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance aux éditions Premier Parallèle. Alors en voici un nouveau territoire. Mais tout d'abord, il faut que vous nous expliquiez en quoi consiste ce traçage social, ce contact tracing, comme on dit en anglais.
Alors effectivement, on dit contact tracing, on dit backtracking, ça a plusieurs appellations un peu barbares. L'idée, pour résumer assez sommairement, c'est qu'en fait on ne suit pas des personnes, on suit des contacts. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du bornage GPS, qui par ailleurs est relativement imprécis, et dans le cadre d'un virus qui se propage dans un rayon relativement faible, le GPS n'est pas nécessairement d'un grand secours. Donc l'idée est plus un peu sur le modèle des applications de drague en ligne, où vous allez croiser une personne, et quand vous allez croiser cette personne, et bien ensuite cette personne, si elle a été contaminée pour le coup, ça va vous envoyer une petite notification, et un code va être stocké dans le téléphone de la personne que vous allez croiser. Et donc à ce moment-là, on peut suggérer ou imposer des mesures privatives de liberté.
Alors, il faut bien expliquer effectivement que ça ne repose pas sur le GPS, ça repose sur le Bluetooth. Autrement dit, cette application ne saura pas où vous êtes, elle saura qui vous avez croisé, Olivier Tesquet.
Voilà, c'est l'idée, et notamment c'est l'idée parce que c'est considéré comme beaucoup moins intrusif du point de vue de la vie privée, parce que l'anonymat, théoriquement, de la personne ou des personnes est garanti jusqu'à ce que quelqu'un soit infecté. Parce qu'en fait, à ce moment-là, vous n'êtes qu'un code stocké dans un téléphone, et les autorités sanitaires n'ont pas accès à ces informations. Et donc, on pourrait dire que le stockage de ces données est décentralisé à l'intérieur des téléphones, grâce à cette technologie Bluetooth, qui est la solution d'ailleurs qui a été retenue dans un certain nombre de pays qui nous ont devancés dans cette initiative.
Mais justement, le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, est assez prudent dans l'interview qu'il a donnée au Monde. Il explique qu'il n'est pas certain que ça fonctionnera. C'est compliqué d'utiliser le Bluetooth dans ce type d'application, Olivier Tesquet?
Alors, on l'a vu sur l'exemple de Singapour, par exemple, qui a beaucoup été mis en avant, y compris par les autorités en France, dans la mesure où il y a parfois des bugs, parfois l'application ne fonctionne pas bien, il faut qu'elle fonctionne en permanence. Donc, on n'a pas la garantie absolue que ça puisse fonctionner, d'autant plus qu'en France, il ne faut pas l'oublier, on a plus de 10 millions de personnes qui sont affectées par la fracture numérique. Tout le monde ne possède pas un smartphone, et d'ailleurs, le ministre le reconnaît dans l'interview au Monde. Donc, ça pose évidemment ce type de questions aussi, d'autant plus que les chercheurs estiment qu'aujourd'hui, pour que le contact tracing ou le backtracking fonctionne, il faut qu'il y ait un enrôlement de la population qui soit supérieur à 60%. Or, on doit avoir un taux de pénétration du smartphone en France qui est d'un peu plus de 70%, donc on voit bien qu'on a une marge de manœuvre en la matière qui est relativement faible, si on se base en tout cas sur le volontariat comme il a été annoncé.
Et oui, parce que on insiste beaucoup sur le fait que il faut qu'il y ait donc une acceptation de ce système. C'est sur la base du volontariat, comme vous venez de le dire, Olivier Tesquet. Et dans le même temps, s'il n'y a pas un minimum d'individus qui acceptent d'installer cette application, elle n'aura pas de sens dans, en tout cas, cette utilisation-là, parce qu'il faut atteindre une masse critique.
Il faut absolument atteindre cette masse critique. Alors, il faut ajouter aussi que ces applications, ce type d'application ne sert à rien si on ne fait pas de dépistage massif, parce qu'on n'est pas capable, dans ces conditions-là, d'identifier les personnes infectées. Or, on sait qu'en France, aujourd'hui, nous n'avons pas ces capacités pour faire des tests massifs. Donc, c'est évidemment un frein. Si on reprend l'exemple de Singapour, qui, encore une fois, était un peu comme ça, emblématique, sur un territoire qui fait 720 km², vous avez à peu près un peu moins de 6 millions d'habitants, et qui en plus Singapour, qui est un totem de ville très connectée, donc a priori c'est typiquement l'endroit où ça devrait marcher. 20% de la population à peu près a téléchargé l'application qu'a déployée le gouvernement. Or, ils ont eu
20%. Ah oui, c'est très faible, effectivement.
quelques jours. Alors, c'est à la fois beaucoup et très peu. Et en fait, ils ont eu de nouveaux cas. Et dans la moitié de ces nouveaux cas, les autorités n'ont pas réussi à identifier comment les personnes avaient été infectées. Et à la suite de ça, le Premier ministre de Singapour a décrété des mesures plus restrictives de confinement. Donc, on voit que même sur un territoire d'une cité-État, théoriquement, la circulation des personnes est un peu plus contrôlée qu'en France. On voit que c'est difficile aussi.
Est-ce qu'il y a eu d'autres exemples de pays qui ont installé une application semblable, une application de contact tracing, comme on dit, de traçage social, Olivier Tesquet?
Alors, il y a la Corée du Sud aussi, qui a d'abord été vue assez rapidement comme un modèle en la matière, mais parce que la Corée du Sud suit une doctrine qu'on pourrait qualifier d'une doctrine des 3 T, un peu, hein, c'est tester, tracer, traiter. C'est-à-dire que vous faites du dépistage massif. Une fois que vous avez identifié les personnes, vous suggérer l'installation d'une application qui permet de les alerter sur leurs interactions sociales, et ensuite vous pouvez assigner momentanément ces personnes à résidence, qu'elles soient en quarantaine, à l'isolement, etc. Donc on va dire que le modèle coréen est un peu notre modèle philosophique, on va dire, et le modèle singapourien a été le modèle un peu pratique.
Bon, alors évidemment, il faut que les individus installent ce système, puisque quand vous dites 20% à Singapour, a priori, c'est insuffisant. Il faut qu'ils aient un smartphone, ça c'est une évidence là aussi, mais au-delà de ça, ça pose toute une série de questions. Alors, pas tant sur la possibilité de localiser un individu, puisque celle-ci sera faible dès lors que cette application utilise la fonctionnalité Bluetooth des téléphones portables. En revanche, au moment où vous annoncez, par exemple, que vous êtes contaminé par le virus, là, il y a une vraie question de secret médical, Olivier Tesquet.
Alors, il y a à la fois une question de secret médical et il y a une question de contrôle du confinement. C'est-à-dire qu'on voit bien que cette option est l'une des briques. Le secrétaire d'État, Cédric O, parle d'une brique incertaine. Donc, c'est l'une des options technologiques pour la sortie du confinement. Donc, quelque part, on lie le relâchement des corps dans l'espace public, si j'ose dire, au déploiement, en partie en tout cas, de cette application. Donc la question du volontariat va être relativement importante, parce que va-t-il se passer dès lors qu'une personne va être considérée comme contaminée? Est-ce qu'on va être capable de protéger son anonymat jusqu'au bout? Est-ce que à un moment, il ne va pas falloir imposer une quarantaine ou imposer une mesure de confinement? On voit qu'aujourd'hui, on a un contrôle du confinement qui est un contrôle très policier. On doit donner une attestation pour justifier de sa présence dans l'espace public. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que demain, on ait un téléchargement volontaire de l'application, mais qu'on ait un contrôle tout aussi policier du confinement, qui ne manquera pas d'intervenir à nouveau une fois qu'on sera sorti, parce que des gens vont retomber malades et qu'il va falloir les isoler du reste de la population. Donc là, on voit bien qu'on est dans un système de troc ou de marchandage, où on nous explique que c'est l'incarcération ou le bracelet électronique. Et je pense que c'est l'une des questions qu'il faut soulever aujourd'hui, et qui me semble être l'un des gros points un peu flous sur la mise en œuvre d'une telle application.
Merci beaucoup Olivier Tesquet. Je rappelle que vous avez notamment publié À la trace, enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance aux éditions Premier Parallèle. Et puis il faut évidemment que cette application fonctionne. Or, l'État n'est pas toujours idéalement doté pour développer des applications. La dernière en date, SAIP, qui avait été développée pour contrer les actions terroristes, n'avait jamais fonctionné. Et il y a d'ailleurs un superfell à retrouver à ce sujet sur le site de France Culture, franceculture.fr. Il est d'ailleurs 7h25 sur France Culture.